Vous écoutez la radio francophone la plus à l'ouest, en Amérique. Mon nom est Alexis Gagnon. Votre émission Le Débrief du jour pour les 12 et 13 juin va débuter tout de suite à l'antenne du 107.9 FM. Je mentionne en passant que nous retrouvons en fin d'émission Jean-Christophe Leblond, notre chroniqueur aménagement et architecture. Jean-Christophe aujourd'hui nous parlera d'un projet de construction en bois au centre-ville de Vancouver, une tour qui va briser un record. Restez donc à l'écoute pour cette interview qui sera diffusée dans le dernier quart d'heure de l'émission. Mon nom est Alexis Gagnon, vous écoutez l'émission Le Débrief. Nous allons débuter immédiatement avec la revue de presse internationale. France, résultat des élections législatives du 11 juin, écrasante majorité pour Emmanuel Macron. Le parti centriste du président français Emmanuel Macron se dirige vers une très large majorité à l'Assemblée nationale française, un atout décisif pour la mise en œuvre de réformes économiques et sociales délicates, très attendues par ses partenaires européens, écrit l'agence France-Presse dans cet article. Lors d'un scrutin marqué par une abstention record, 51,29%, le mouvement présidentiel La République En Marche, REM, a balayé les partis traditionnels au premier tour des législatives avec 32,3% des voix, devançant largement la droite, la formation d'extrême droite de Marine Le Pen et la gauche divisée entre différents courants selon les résultats définitifs. Selon les projections partielles, le mouvement d'Emmanuel Macron et son allié, le Modem, ravirait au deuxième tour dimanche prochain entre 400 et 455 des 577 sièges de l'Assemblée nationale française, bien plus que la majorité absolue, soit 289 sièges. Ce score tient de la performance pour un mouvement qui, après seulement un an d'existence, a dynamité les partis de gauche et de droite qui se partageaient le pouvoir en France depuis 60 ans. Un Big Bang, a résumé l'ancien ministre de droite Jean-Pierre Raffarin. Dans le Nouvel Observateur, on parle également de ces élections législatives. Non, ce n'est pas un raz-de-marée en faveur d'Emmanuel Macron, écrit le journaliste Baptiste Legrand. Jamais un président n'avait obtenu aussi peu de voix lors des élections législatives qui suivaient la présidentielle, écrit-il. Il est des images trompeuses, continue-t-il. L'Assemblée nationale sera repeinte aux couleurs d'Emmanuel Macron à l'issue du premier tour des législatives et pourtant, le triomphe qui s'annonce en nombre de sièges mérite d'être nuancé. Oui, La République En Marche, le parti d'Emmanuel Macron, va remporter haut la main les élections législatives dimanche prochain. Le second tour sera immanquablement la confirmation du premier, écrit le journaliste. Mais non, il ne s'agit pas d'un raz-de-marée en faveur d'Emmanuel Macron. Loin de là, les Français n'ont pas voté massivement pour les candidats de La République En Marche. Le taux record d'abstention, 50,2% selon les estimations, en est la première indication. Jamais les Français n'avaient aussi massivement boudé les urnes pour des élections législatives. C'est le signe que la nouvelle offre politique n'a pas fait disparaître le scepticisme des citoyens. Surtout, les 32,2% obtenus par La République En Marche, le parti d'Emmanuel Macron, représente un score historiquement bas. Jamais un président de la République n'avait obtenu un pourcentage aussi faible lors des élections législatives qui suivaient son accession à l'Élysée. Alors, des nuances importantes dans cet article du Nouvel Observateur en France législative. Non, ce n'est pas un raz-de-marée en faveur d'Emmanuel Macron. Vous trouvez ça dans le Nouvel Observateur. On se tourne vers le Royaume-Uni à présent, un Royaume-Uni qui était lui aussi en élection jeudi dernier. Theresa May compose un gouvernement fragile après sa défaite, c'est dans le journal Le Monde, affaibli par son revers aux élections législatives anticipées du 8 juin qu'elle avait elle-même convoquées. La première ministre Theresa May a opté pour un remaniement de faible ampleur. À une semaine de l'ouverture des négociations sur le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, cruciale pour son avenir, le Royaume-Uni est dirigé par un gouvernement retouché mais en sursis. Après son échec aux législatives du jeudi 8 juin et la perte de la majorité absolue au Parlement, Theresa May s'accroche au pouvoir pour être en position de conduire, comme prévu, la délégation britannique le 19 juin, lorsque les discussions débuteront à Bruxelles. Symptôme de la confusion ambiante, Downing Street, qui est la maison du premier ministre, a annoncé à tort samedi qu'un accord avait été trouvé avec le Parti démocratique unioniste, le DUP, formation ultra-conservatrice d'Irlande du Nord, seule à même de fournir l'appoint pour une majorité aux communes. Effectivement, on avait parlé de cela dans le débrief édition de vendredi. On avait signalé que le parti de Theresa May s'était allié à des extrémistes irlandais de droite pour pouvoir atteindre cette fameuse majorité tant désirée à la Chambre des communes à Londres. Mais c'était une erreur. Le parti de Theresa May a reculé et a annoncé que cette union n'avait pas eu lieu. Cette entente n'avait pas été conclue. Alors, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans cet article sur les lendemains de l'élection de jeudi dernier au Royaume-Uni ou en Grande-Bretagne, si vous préférez, le titre « Theresa May compose un gouvernement fragile après sa défaite », c'est dans le journal Le Monde. Et toujours à propos de ces élections au Royaume-Uni jeudi dernier, je vous propose cet article paraissant dans le portail de Mediapart. Jeremy Corbyn enterre définitivement la troisième voie blairiste. Et quand on parle de blairiste, on réfère bien sûr à Tony Blair, qui est un ancien premier ministre du Labour, mais très très différent de Jeremy Corbyn, qui dirige aujourd'hui ce parti. C'est par le journaliste Fabien Escalona dans Mediapart. Jeremy Corbyn a réussi son pari d'ancrer le Labour à gauche et de le faire progresser face aux conservateurs de Theresa May. Sa position à la tête du parti est consolidée et son score peut encourager les partisans d'une social-démocratie retrouvant la force propulsive contestataire de ses débuts. Jeremy Corbyn, écrit le journaliste, n'avait pas l'étoffe pour le job. On croyait qu'il allait entraîner les travaillistes, le Labour, dans une déroute digne de celle de 1983 et assurer aux conservateurs de Theresa May une domination sans partage. Ses propositions dirigistes et dépensières, autant que ses convictions socialistes et anti-impérialistes, qu'il avait eu l'indécence de ne jamais abjurer, constituaient un épouvantail à électeurs. En refusant de prendre position franchement contre le Brexit, il avait fait la preuve de son incompréhension du sens de l'histoire, tout en se coupant d'une frange importante de l'électorat progressiste. Alors là, vous le comprenez, ce sont les critiques qu'on adressait à Jeremy Corbyn qui sont résumées ici de façon très ramassée et très concise par le journaliste de Mediapart, Fabien Escalona. Et évidemment, c'est Jeremy Corbyn qui a eu le dernier mot sur le courant blairiste de son parti. Alors voilà, les médias étaient contre lui, une partie de son parti était contre lui, mais Jeremy Corbyn a su quand même réaliser d'importants gains dans cette élection du jeudi 8 juin. Vous trouverez ça dans Mediapart sous la plume de Fabien Escalona. Israël va réduire la fourniture d'électricité à la bande de Gaza. C'est dans le journal Le Monde. Le gouvernement israélien a décidé de réduire de 3/4 l'approvisionnement quotidien en courant de la bande de Gaza, faisant craindre de nouvelles tensions dans l'enclave. La décision fait craindre de nouvelles tensions dans la bande de Gaza où Israël et le Hamas, son ennemi, se sont livrés à 3 guerres depuis 2008, rappelle le journal. Le ministre de la Sécurité intérieure a confirmé lundi 12 juin qu'Israël allait réduire la fourniture d'électricité au territoire palestinien gouverné par le Hamas islamiste et déjà en proie à une sévère pénurie de courant. Le gouvernement israélien, réuni en format restreint, a décidé dimanche soir de réduire de 3/4 l'approvisionnement quotidien en courant de 2 millions de Gazaouis vivant reclus dans cette enclave. Les habitants de Gaza ne reçoivent au mieux que 3 ou 4 heures d'électricité publique par jour, a reporté la presse israélienne. Un porte-parole du gouvernement israélien a dit ne pouvoir s'exprimer sur les décisions du cabinet de sécurité. Mais le ministre de la Sécurité intérieure, membre de ce cabinet, a confirmé l'information sur la radio militaire en l'expliquant par les dissensions entre Palestiniens. Le journal rappelle que c'est l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, rival du mouvement Hamas, qui a décidé de réduire de façon significative les paiements qu'elle effectue à Israël pour l'électricité que ce dernier livre à Gaza. Et le journal rappelle aussi que le Hamas a évincé l'autorité palestinienne de la bande de Gaza en 2007. L'autorité palestinienne, censée préfigurer le gouvernement d'un futur État palestinien, n'exerce plus ses prérogatives qu'en Cisjordanie, séparée de la bande de Gaza par le territoire israélien. Toutes les tentatives de réconciliation ont échoué, mais l'autorité palestinienne continue à payer le courant fourni par Israël aux habitants de Gaza. Donc vous aurez les détails et les dernières nouvelles concernant cette crise à Gaza. Israël va réduire la fourniture d'électricité à la bande de Gaza, c'est dans le journal Le Monde. Dans le portail de RFI, Radio France Internationale, à l'adresse rfi.fr, nous trouvons un article fort intéressant sur l'e-démocratie, la démocratie électronique, si vous préférez. L'Estonie, un modèle encore imparfait d'e-démocratie. C'est par le journaliste Marc Echeverry. Alors, l'article fait un parallèle entre les élections législatives du 11 juin en France et les élections en Estonie. En France, dimanche 11 juin, quelques 47 millions d'électeurs sont appelés à se déplacer dans leur bureau de vote pour désigner leur future Assemblée nationale. Se déplacer, c'est justement ce que n'ont pas besoin de faire les Estoniens dans pareil cas. Comment se débrouillent les électeurs de ce petit État balte accroché à un voisin russe auquel on prête toutes les manigances électroniques? Reportage. Donc voilà, des doutes, des interrogations sur le fonctionnement de cette démocratie électronique que veut mettre en place l'Estonie, la perle balte, comme on l'appelle dans le monde digital, le pays du tout numérique, la Startup Nation. Elle a tous ses surnoms en raison des innovations qui ont été faites dans le domaine de la citoyenneté numérique, si vous voulez. Quand la presse française évoque l'Estonie et son rapport à Internet, c'est rarement sans une pointe d'excitation, écrit le journaliste de RFI. Et il y a franchement de quoi être séduit par les prouesses de cet État balte de 1,3 million d'habitants qui a su s'émanciper de l'URSS il y a plus d'un quart de siècle en se délestant d'une pesante bureaucratie avec quelques lignes de code. Si bien qu'aujourd'hui, le gouvernement estonien peut avancer fièrement des chiffres qui n'ont rien de virtuel. Record mondial du nombre de start-up par habitant, un secteur numérique qui pèse pour près de 7% du PIB, près de 2000 services disponibles en ligne, services qui ont fait économiser en 2014, par exemple, près de 7 millions de jours de travail selon la Banque mondiale. Mais l'Estonie n'a pas simplement numérisé son administration, poursuit cet article. Elle a également fait de ses internautes des électeurs, avec succès, dit-on dans cet article. Lors des dernières élections législatives en 2015, près d'un tiers des votants ont préféré la souris à l'isoloir. L'Estonie, peut-on lire, est naturellement devenue un modèle dont toute l'Europe souhaite s'inspirer. De passage dans la capitale, des dirigeants de tout le continent, dont la chancelière allemande Angela Merkel, n'ont pas manqué de faire un détour pour voir le showroom e-Estonia, situé dans le sud de la capitale Tallinn, un espace où l'on vend le gouvernement comme service à la sauce estonienne. Tous sont entrés dans ce décor fait de bois scandinave et d'écrans tactiles, à l'atmosphère épurée, évoquant cette transparence dont le gouvernement souhaite donner des gages à chaque visiteur. Dans ce pays, peut-on lire, la carte d'identité numérique est le sésame qui donne accès à toute l'architecture des services mis en place en Estonie depuis le début des années 2000. De la taille d'une carte de crédit, cette carte d'identité fait figure de permis de conduire, comme de carte de santé, et permet aussi de prendre les transports en commun ou encore de s'inscrire à l'université. Et bien sûr, comme l'indique le titre de cet article, cette carte d'identité permet aussi de voter en quelques secondes. Retour dans le portail de Mediapart, les Panama Papers. Le premier ministre pakistanais sera entendu jeudi. C'est dans le fil de l'agence Reuters. Le premier ministre pakistanais Nawaz Sharif sera interrogé jeudi dans le cadre d'une enquête sur les conditions d'enrichissement de sa famille. Ses services ont confirmé lundi sa convocation devant les membres de la commission d'enquête pakistanaise mise sur pied à la demande de la Cour suprême après les révélations des Panama Papers. C'est la première fois qu'un chef de gouvernement pakistanais en exercice fait l'objet d'un tel interrogatoire. La Cour suprême pakistanaise a jugé en avril que les éléments à sa disposition ne justifiaient pas sa destitution, mais a demandé tout de même un complément d'enquête. Les Panama Papers ont été divulgués il y a un an par le Consortium international des journalistes d'investigation, le ICIJ. Le premier ministre Sharif, dont la famille détient l'une des plus grosses fortunes du Pakistan, nie toute malversation. Vous trouverez ça dans le fil de Reuters. C'est sur cette actualité que se referme la revue de presse internationale dès lundi et mardi 12 et 13 juin. Demeurez avec nous à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale. L'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien, va se poursuivre dans quelques instants avec la revue de presse canadienne. Merci d'être à l'écoute de l'émission Le Débrief, édition des 12 et 13 juin. Nous allons à présent passer aux nouvelles canadiennes. Voici votre revue de presse nationale. On débute dans les colonnes du média acadien Acadie Nouvelle au Nouveau-Brunswick. On va se pencher sur un éditorial signé par François Gravel en date du 9 juin. François Gravel donc écrit « Madeleine Meyer ne sera pas la prochaine commissaire aux langues officielles du Canada. Elle a retiré sa candidature, une décision sensée qui s'imposait depuis déjà trop longtemps. Madeleine Meyer est une libérale. Ce n'est pas une qualité ou un défaut, mais c'est un fait qu'on ne peut pas ignorer. Elle a fait de la politique partisane pendant 13 longues années en Ontario. Elle a appuyé officiellement, moralement et financièrement Justin Trudeau lors de sa quête pour devenir chef du Parti libéral, puis lors des dernières élections en 2015. À l'inverse, poursuit l'éditorialiste, le commissariat aux langues officielles n'a rien de partisan. Il est apolitique et est censé répondre au Parlement. Il est hors de question d'accepter qu'un premier ministre, fût-il adepte des voix ensoleillées, le transforme en une sorte de poste honorifique où l'on peut camper des amis de la famille politique du parti au pouvoir. Madeleine Meyer avait beau avoir toutes les compétences pour occuper le poste, elle n'avait pas la distance nécessaire avec le gouvernement Trudeau, poursuit l'éditorialiste. Elle n'aurait jamais dû être nommée en premier lieu. C'est pourquoi nous avions invité le premier ministre Trudeau, dans un éditorial publié le 20 mai dernier, à retirer sa candidature. Détail intéressant, l'ex-candidate a retiré ses billes tout juste avant que le Sénat canadien ne se prononce sur sa nomination. De fortes rumeurs voulaient que celui-ci rejette la candidature de Madeleine Meyer. Ce n'est pas banal. Le Sénat a longtemps été considéré comme étant au service du gouvernement. Depuis son arrivée en poste, Justin Trudeau a toutefois pris des mesures pour restaurer la crédibilité de l'institution en expulsant les sénateurs du caucus libéral, ainsi qu'en y nommant des personnalités plus méritantes et non sur une simple base partisane. La créature de Justin Trudeau, écrit François Gravel, s'est retournée contre lui. Mais en même temps, elle démontre pour la première fois, donc ce Sénat nouveau genre démontre pour la première fois, depuis longtemps, qu'il peut jouer un rôle de contre-pouvoir et regagner un peu de légitimité. Nous ne pouvons que nous en réjouir. La question de l'embauche de Madame Meyer réglée, il faut maintenant se tourner vers l'avenir, poursuit-il. Le poste de commissaire aux langues officielles est toujours vacant. Il faut le combler sans perdre de temps. Nous en avons déjà perdu suffisamment avec le roman savon qui s'est terminé cette semaine. Alors voilà, ça se poursuit sur plusieurs lignes si vous voulez approfondir. C'est l'éditorial que publie François Gravel dans l'Acadie Nouvelle. Ça s'intitule tout simplement « Après Meyer ». Et le même François Gravel, pourquoi pas, restons dans les pages de l'Acadie Nouvelle, cet autre texte qu'il avait signé dans les pages éditoriales du journal néo-brunswickois, en date du 7 juin celui-là, c'était en réaction au passage de Barack Obama à Montréal, le décevant discours de Barack Obama. François Gravel écrit « Le discours de Barack Obama à Montréal était accompagné de grandes attentes. Qu'allait dire l'ancien président américain en ces temps troubles? Il a finalement abordé des thèmes qui lui sont chers, comme l'ouverture, l'environnement et l'espoir. Malgré tout, il ressort de cette conférence une odeur d'occasion manquée. » La présence de Barack Obama au Canada était un événement important. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui était l'hôtesse de l'événement, avait bien pris soin de préciser que le grand homme politique avait carte blanche. Cela a soulevé toutes sortes de spéculations. L'ex-président proposerait-il au Canada de jouer un rôle plus important sur la scène internationale? Livrerait-il un plaidoyer en faveur du libre-échange? Condamnerait-il les politiques de son successeur Donald Trump, lequel ne s'est pas gêné dans les derniers mois pour critiquer le Canada? Bref, la table était mise. Malheureusement, le discours de Montréal de Barack Obama ne passera pas à l'histoire. Plusieurs retiendront la phrase clé de son allocution, soit que nous devons remplacer la peur par l'espoir, mais disons qu'elle a fort peu de chances de devenir un cri de ralliement à travers le monde. Nous aurions espéré davantage de celui qui a incarné l'espoir au point de mériter le Nobel de la paix peu après son arrivée à la Maison-Blanche. Il faut dire qu'en refusant de parler directement de son successeur Donald Trump, l'ancien président démocrate se condamne à énoncer des généralités. Des milliards d'Ottawa pour les garderies, c'est dans le journal La Presse, sous la plume de Joël Denis Bellavance. Le gouvernement Trudeau et l'ensemble des provinces, sauf le Québec, sont parvenus à un accord historique qui jettera les premières fondations d'un réseau national de garderies. En vertu de cet accord, qui sera confirmé aujourd'hui à Ottawa par le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, le gouvernement Trudeau injectera 7,5 milliards au cours des 11 prochaines années dans le développement de services éducatifs de garde abordables, de qualité, souples et inclusifs. Jean-Yves Duclos confirmera cet accord multilatéral au terme d'une rencontre avec ses homologues provinciaux, selon des informations obtenues par le journal La Presse. Le Québec, qui compte un réseau de garderies depuis 20 ans, sera représenté par un haut fonctionnaire et ne signera pas l'entente. Mais le gouvernement Trudeau, poursuit le journaliste, conscient que le réseau québécois est un modèle à suivre dans le reste du pays, compte verser au Québec la juste part qui lui revient. Des investissements fédéraux, soit 23 % de la cagnotte, ou environ 88 millions de dollars par année durant les 3 prochaines années. Dans le fil de la presse canadienne maintenant, la journaliste Vicky Fragasso-Marquis signe un article sur le Bloc québécois qui demande des mesures pour les francophones de l'armée canadienne. Le Bloc québécois déplore que dans sa nouvelle politique de défense, le gouvernement libéral ne dise pas un seul mot sur la place du français dans l'armée canadienne. Le porte-parole du Bloc québécois en matière de défense, Michel Boudria, interpelle le ministre de la Défense pour qu'il corrige la situation qu'il juge inacceptable. Mercredi dernier, le gouvernement Trudeau a présenté une nouvelle politique de défense qui prévoit des investissements plus considérables à long terme et des objectifs visant à augmenter le nombre de femmes et les groupes sous-représentés dans l'armée, dont les Autochtones et les membres de minorités visibles. Michel Boudria, lui-même un ancien militaire, salue la volonté du gouvernement de laisser plus de place à ces gens, mais il se désole que rien ne soit annoncé sur le fait français. La politique de défense du ministre Harjit Sajjan a pour objectif la création d'un effectif qui tirera profit de la diversité de la société canadienne, mais ne mentionne en aucun moment spécifiquement les francophones de l'armée canadienne. Le député bloquiste de Terrebonne estime qu'il y a une disproportion importante entre le nombre de francophones dans l'armée, qui représente selon lui environ le quart des militaires, et le nombre d'unités francophones. C'est une situation qui ne se corrige pas avec le temps. Et à l'occasion du renouvellement de la politique de défense, j'ai jugé bon de rappeler le fait français en Amérique du Nord, a-t-il déclaré en entrevue téléphonique avec la presse canadienne. Langues officielles, Ottawa ajoute 2,5 millions de dollars pour les jeunes. C'est aussi dans le fil de la presse canadienne en date du 10 juin. La ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, a annoncé samedi un appui financier additionnel de près de 2,5 millions de dollars sur 2 ans au programme Jeunesse du Canada au travail dans les 2 langues officielles. Selon la ministre Joly, ce nouvel investissement permettra de créer jusqu'à 280 emplois verts pour que de jeunes Canadiens puissent acquérir des compétences qui seront importantes durant leur carrière, tout en améliorant leurs aptitudes dans l'une de leurs 2 langues officielles. Une tribune intéressante paraît dans le Prince Arthur. C'est un média de droite anglophone et francophone que l'on trouve à l'adresse princearthurherald.com. Une tribune d'un ancien député conservateur, Luc Harvey. Le secret canadien qu'on s'apprête à vendre à la Chine. Peu de Canadiens connaissent Radarsat, écrit-il. Si le Canada a un fleuron, c'est bien Radarsat. Ce satellite tourne autour de la Terre et prend des photos, peu importe la température ou si le temps est couvert. La précision des photos fait l'envie de plusieurs pays qui, contrairement au Canada, pourraient s'en servir pour faire la guerre ou de l'espionnage. En 2006, rappelle l'auteur, alors que j'étais député conservateur, les Américains avaient tenté d'acheter cette compagnie, Radarsat, qui a reçu des centaines de millions de dollars du gouvernement canadien pour développer sa technologie. Un de mes électeurs m'avait informé de la possible transaction. J'étais donc allé visiter les bureaux de la compagnie située au Québec. Par la suite, j'ai fait des représentations auprès du ministre Jim Prentice concernant l'importance de garder la compagnie sous propriété canadienne. Je trouvais également un peu étrange qu'une compagnie ayant reçu une aide gouvernementale aussi importante puisse être vendue à des intérêts étrangers sans avoir à rembourser l'aide reçue du Canada. La transaction avec les Américains était prête et attendait l'accord du ministère de Jim Prentice pour être complétée. Le ministre avait alors pris environ 2 mois pour arriver à la conclusion que la technologie et l'information ne pouvaient être vendues aux USA et la transaction avait été annulée. Voilà qu'un peu plus de 10 ans plus tard, c'est au tour des Chinois de s'intéresser à Radarsat, écrit l'auteur. Une décision que l'on pourrait juger sensible est traitée en accéléré et tout ce que le premier ministre Justin Trudeau trouve à dire, c'est que le gouvernement n'a rien à voir dans la décision, ce qui est archi-faux. Alors, une technologie sensible sur le point d'être vendue à l'État chinois. Luc Harvey tire la sonnette d'alarme, si vous voulez, dans le Prince Arthur, ce média indépendant de droite, de langue française et de langue anglaise. Vous trouverez ça à l'adresse princearthurherald.com. L'allocution en Mohawk qui a fait le tour du monde, c'est dans le journal La Presse, sous la plume du journaliste Nicolas Bérubé. Mark Miller, député fédéral de Ville-Marie. au Québec est entré dans l'histoire le 1er juin en prononçant une allocution en Mohawk, en langue Mohawk, à la Chambre des communes à Ottawa. « Si j'avais pu prédire les réactions, j'aurais été encore plus nerveux », a-t-il dit en entrevue avec le journal La Presse. « Comment est née l'idée de faire une allocution en langue Mohawk ?» a demandé le journal La Presse aux députés. « Nous faisons des tournées communautaires avec des membres des communautés autochtones et beaucoup de gens soulignaient que les langues autochtones sont menacées », a répondu le député. « Ce n'est pas nouveau, mais ça m'a vraiment sauté aux yeux. C'est là que j'ai décidé de me donner comme défi d'apprendre les rudiments du Mohawk. C'est la langue du territoire que je représente, le centre-ville de Montréal, la terre traditionnelle Mohawk. Donc j'ai suivi un cours sur Internet. Les gens de l'organisation Six Nations m'ont épaulé. J'ai rédigé le texte avec l'aide de personnes à Kanawagé et à Six Nations. Ça m'a pris 3 semaines de préparation. Je ne voulais pas rater mon coup. Et il y a même une vidéo de l'allocution de Mark Miller en Mohawk, une première à la Chambre des communes à Ottawa. Donc, vous trouverez ça sous le titre « L'allocution en Mohawk » qui a fait le tour du monde dans le journal La Presse. On va terminer cette revue de presse nationale avec un article qui paraît dans le portail indépendant Ricochet, un portail anglophone francophone. C'est dans le versant francophone du site et c'est un appel à la hausse du salaire minimum. Ça s'intitule « Pour une hausse significative du salaire minimum ». Et bien sûr, ça parle principalement de la situation au Québec, mais ça peut se rapporter aux autres provinces aussi. Je vous en lis donc quelques lignes. Le 1er mai dernier, le salaire minimum général est passé à 11,25 $ de l'heure. La hausse s'inscrit dans une série d'augmentations du salaire minimum visant à atteindre 12,45 $ de l'heure d'ici 2020, ce qui devrait alors représenter la moitié du salaire moyen au Québec. Ces hausses minimales ne tiennent pourtant pas compte de la réalité des travailleurs et travailleuses au salaire minimum, écrit Ricochet dans cet article. La majorité des gens qui reçoivent le salaire minimum vivent une situation de pauvreté qui n'est pas transitoire. 72% des travailleurs et travailleuses au salaire minimum occupent un emploi permanent. Alors, ce n'est pas un emploi d'été, ce n'est pas un emploi en attendant, c'est un emploi permanent. Et la moitié des travailleurs et travailleuses au salaire minimum comptent sur ce salaire pour arriver à la fin du mois. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres revenus dans le ménage. Et cet article indique en substance que le salaire minimum est effectivement une trappe à pauvreté, un piège dans lequel on reste pris et duquel on ne peut se libérer. On présente aussi les avantages d'une augmentation significative du salaire minimum. Il y a par exemple une augmentation des recettes de l'État. Ça revalorise certaines professions. Ça crée un effet de contagion positif dans l'économie, peut-on lire? Et une foule d'autres avantages. Vous pourrez consulter ça donc dans cet article, je le rappelle, qui paraît dans le portail indépendant Ricochet pour une hausse significative du salaire minimum. C'est en date du 5 juin. Vous le trouverez aisément sur la page d'accueil de Ricochet. On referme ici la revue de presse canadienne pour les 12 et 13 juin. Le débrief va vous revenir dans quelques instants avec votre rubrique Francophonie du jour. À tout de suite. Alors, pour compléter les revues de presse internationales et canadiennes, voici maintenant votre rubrique Francophonie pour les 12 et 13 juin. Le nouveau président de la FCFA demande déjà plus d'argent à Ottawa. C'est dans le portail albertain de Radio-Canada et c'est sous la plume du journaliste Laurent Pirot. Le tout nouveau président de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, la FCFA, Jean Johnson, exige un apport financier supplémentaire du gouvernement fédéral afin de soutenir la francophonie. Justin Trudeau, dit le nouveau président dans cet article, a une super belle vision du bilinguisme canadien, sauf que, pour nos communautés, cette vision-là repose carrément sur nos épaules. Pour être capable de réussir dans cette vision-là du premier ministre, il va falloir soutenir et augmenter les investissements et augmenter la capacité de nos communautés, point à la ligne. Jean Johnson a été élu samedi par les associations membres de la FCFA en promettant de renforcer le dialogue avec les politiciens fédéraux. Il faut arrêter de parler juste aux fonctionnaires et commencer à parler aux élus, a-t-il affirmé en entrevue avec Radio-Canada. Le nouveau président a expliqué qu'une de ses priorités serait de continuer le travail de demander une rencontre avec le premier ministre Justin Trudeau, notamment pour résoudre la contradiction qu'il constate entre les ambitions et les moyens accordés aux communautés francophones du Canada. Jean Johnson compte également être très actif sur la question de la loi sur les langues officielles. À l'interne, il reconnaît qu'il devra aussi travailler à reconstruire la confiance au sein de la Fédération après son élection très serrée face à l'ancienne présidente Sylviane Lantier. Vous trouverez donc cette actualité à thématique francophone dans le portail Albertin de Radio-Canada. Le nouveau président de la FCFA demande déjà plus d'argent à Ottawa. C'était votre information à thématique francophone dans l'édition des 12 et 13 juin. Le débrief va se poursuivre dans quelques instants. Restez à l'écoute de votre fréquence communautaire francophone locale.
Je ne veux plus te sentir broyé du noir. Quand tu pleures, j'ai mal. Ton chagrin, je n'arrive pas à le voir. Quand je suis avec toi, mon cœur s'emballe.
Nous entendions à l'instant l'auteur-compositeur-interprète Benjamin Daniel avec une pièce intitulée « Le toit du monde ». C'est Alexis Gagnon en votre compagnie dans l'émission « Le débrief », édition des 12 et 13 juin. L'info se poursuit. On va passer rapidement en revue les actualités britanno-colombiennes. On va tout de suite débuter cette revue de presse provinciale en allant dans les colonnes du journal « L'Acadie Nouvelle ». Éducation en français en Colombie-Britannique, il faut agir. C'est en date du 11 juin sous la plume du journaliste Mathieu Mathieu Roy, Comeau. Un comité du Sénat canadien dresse un très sombre bilan de l'éducation en français en Colombie-Britannique. Des installations vétustes et pleines à craquer, des classes portatives qui empiètent sur les terrains de jeu, des trajets en autobus beaucoup trop longs, un manque constant de personnel et des recours judiciaires à répétition. L'éducation en français connaît de sérieux problèmes sur les côtes du Pacifique. Vous trouverez ce résumé de la situation sur l'accès à l'éducation en français en Colombie-Britannique dans les pages de l'Acadie Nouvelle, acadienouvelle.com. C'est un article écrit par le journaliste Mathieu Roy Comeau. Tension ou non, l'Alberta devra continuer de fournir du pétrole à la Colombie-Britannique. C'est un article qui paraît dans le portail Albertain de Radio-Canada sous la plume de Laurent Pirou. En 1980, l'Alberta, en conflit avec Ottawa, avait décidé de baisser ses livraisons de pétrole. Même si les tensions actuelles devaient s'accentuer avec la Colombie-Britannique, une telle crise ne devrait pas se reproduire. Donc le journaliste explique pourquoi la reproduction d'une crise comme on l'a connue en 1980 est peu probable et les raisons donc sont données. Le contexte est différent, indique en substance le journaliste Laurent Pirot dans cet article, ce qui est intitulé « Tension ou non, l'Alberta devra continuer de fournir du pétrole à la Colombie-Britannique ». Toujours sans trace du petit avion disparu jeudi en Colombie-Britannique. C'est une nouvelle qui paraît dans le fil de l'agence QMI. Les recherches se poursuivaient samedi dans un secteur montagneux et boisé de la Colombie-Britannique pour retrouver un petit avion qui a disparu des écrans radars jeudi. Deux personnes se trouvaient à bord de l'appareil appartenant à l'école de pilotage Excel Flight Training de Lethbridge en Alberta, selon les secours qui ont été prévenus de la disparition en début de soirée jeudi. Alors, les recherches se poursuivent. C'était des jeunes passagers, 21 ans et 24 ans, un jeune homme et une jeune femme, un jeune couple qui occupait cet avion. C'est le jeune homme qui était aux commandes. Donc, les recherches se poursuivent. Si vous voulez plus de détails, c'est dans le fil de l'agence QMI. Et avant de refermer cette revue de presse rapide des nouvelles de Colombie-Britannique, l'expédition Canada C3 s'arrête au Québec. Donc c'est d'une autre tournée pan-canadienne cette fois, mais à travers les eaux navigables que l'on parle maintenant de côte en côte, l'expédition C3 célèbre le 150e anniversaire de la Confédération avec un voyage autour du Canada. 150 jours, 15 étapes et une expédition historique de l'Ontario à la Colombie-Britannique en passant par le Québec. Le brise-glace Canada C3 a quitté Toronto, point de départ de l'expédition qui était la première étape du voyage le 1er juin dernier. Pendant près de 2 semaines, le navire a remonté le lac Ontario jusqu'au fleuve Saint-Laurent, prenant la direction du Québec où de nombreux arrêts sont prévus durant la semaine prochaine. Alors, vous le comprenez, ce navire ira d'un océan à l'autre en passant par le passage du Nord-Ouest. C'est une nouvelle qui est rapportée par le portail Météo Média, météomedia.com. L'expédition Canada C3 s'arrête au Québec. Et cet article indique que le navire arrivera à Victoria à la fin du mois d'octobre. Vous trouverez cet article sur le portail météomedia.com. L'expédition Canada C3 s'arrête au Québec. C'est une expédition qui est organisée dans le cadre du 150e anniversaire du Canada. Et c'est avec cette actualité paraissant sur le portail météomedia.com qu'on va compléter aujourd'hui le tour d'horizon des nouvelles britanno-colombiennes. Mon nom est Alexis Gagnon. Vous écoutez l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info à l'antenne du 107.9 FM dans la grande région de Victoria. On fait une courte pause. Au retour, j'ai le plaisir de m'entretenir avec notre chroniqueur en aménagement et en architecture, Jean-Christophe Leblond. Restez à l'écoute. Vous êtes à l'antenne de CILS FM 107,9, toujours dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info de fin de journée. J'ai au bout du fil notre chroniqueur Jean-Christophe Leblond. Bonjour Jean-Christophe.
Oui, bonjour Alexis.
Alors, ça faisait longtemps, très heureux de te retrouver. On parle à nouveau d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'architecture. On a une nouvelle aujourd'hui à communiquer aux auditeurs, on va en discuter. Ça nous arrive de Vancouver, donc une nouvelle construction au centre-ville de Vancouver qui attire l'attention, n'est-ce pas?
Oui, en effet, ça poursuit là sur un sujet dont on avait déjà parlé. C'est un immeuble de 19 étages dont une partie de la structure sera construite en bois. Alors, oui. Encore cette, c'est ce qui fait que c'est un édifice remarquable, dont on parlait un peu de comment il y a une tendance là très très récente de oui. construire des immeubles de grande hauteur en bois. Et Vancouver détient d'ailleurs le record mondial de l'immeuble en bois le plus élevé. Et ça, ce serait, cet immeuble-ci serait l'immeuble à structure hybride, c'est-à-dire bois, béton, acier, le plus élevé du monde.
On a de belles images sur l'article que tu m'as envoyé. Est-ce que tu peux me décrire un peu la forme, l'aspect de cette tour?
Ben, en fait, moi, j'ai souvent tendance à être critique là, des tours, à considérer que c'est un peu une mode qui apporte son lot de problèmes urbanistiques, même si, bon, on parle toujours de l'avantage de la densité. Cet immeuble-ci est quand même particulièrement intéressant. Donc, j'y suis quand même sympathique. Là, d'abord, il se trouve, le site est juste à côté d'un immeuble qui dont le concepteur est Arthur Erickson, le maître de l'architecture vancouveroise, cet architecte qui est probablement l'architecte canadien le plus qui a le plus marqué l'architecture du 20e siècle, mm-hmm. l'immeuble de 1979 qui est constitué tout en terrasses qui sont plantées. C'est quand même un très bel immeuble qui s'appelle je ne réussis pas à trouver le nom. Ah, le Evergreen Building, donc de Arthur Erickson. Et donc, pour cet immeuble, l'architecte a choisi un peu de vraiment tenter de dialoguer avec cet immeuble de Erickson. Donc, lui aussi fait usage de terrasses sur son immeuble, ce qui aussi vient un peu adoucir la présence du bâtiment. C'est pas simplement une grande tour ou encore un grand basilaire avec une grande tour. Ça fragmente un peu l'échelle du bâtiment. Et l'architecte de ce bâtiment est un autre architecte japonais très connu,
oui.
un autre bâtiment dont on avait parlé,
oui.
Mais c'est pas le même architecte cette fois-ci, c'est Shigeru Ban, qui est en fait un architecte, un personnage quand même intéressant, qui a œuvré beaucoup dans l'humanitaire, qui avait développé un système structural qui se sert de rouleaux de carton, et qu'il utilise pour reconstruire rapidement des abris et des immeubles en zone qui auraient été victimes là, de séisme.
Oui, d'accord.
Donc, c'est quand même un personnage intéressant avec une pensée humaniste.
Oui.
Et donc, ça se ressent dans l'immeuble, là, qu'il y a quand même une facture, je trouve, là, à voir les images. On ne sait jamais comment ce sera une fois que ce sera construit, mais disons une présence... Une échelle qui offre une échelle plus humaine que beaucoup des tours d'un paysage de centre-ville nord-américain typique.
Alors, à qui est destinée cette tour sur le plan sociétal? Est-ce qu'on retrouve une diversité ou ce sera surtout pour des gens très fortunés?
Ben, t'amènes un très bon point. C'est un peu une des critiques de l'immeuble. Là, c'est quelque chose, ça aussi, j'ai pas pu trouver d'infos précises à ce sujet-là. Mais il y a fort à parier, là. Ça semble être un projet d'un promoteur privé. Donc, à ce niveau-là, il y a un problème social, si on veut. C'est que probablement, ça va encore venir ajouter au nombre de logements qui sont qui répondent au créneau de luxe, mais qui apportent très peu pour le commun des mortels.
Donc, on peut signaler aux auditeurs que cette tour de l'architecte japonais Shigeru Ban sera construite dans le secteur du waterfront. Donc, ça peut situer ceux qui connaissent bien Vancouver. Donc, c'est assez central quand même. Au niveau du sol, est-ce qu'il y a une relation avec le quartier? Est-ce que tu entrevois que cette tour aura une belle chimie, une belle interaction avec l'environnement immédiat, le quartier?
Ben, en effet, tu amènes encore un élément clé. C'est que mon impression, justement, comme je dis, contrairement à beaucoup de projets de tours, même lorsqu'elles sont très belles et qu'elles présentent des formes très intéressantes, il y a quand même cet élément-ci de l'interaction avec le niveau du sol,
oui.
De la contribution à la convivialité d'un quartier. Et puis, comme je disais, à cause de l'échelle qui me semble quand même assez humaine et puis du soin qui a été apporté à dialoguer avec l'immeuble voisin de Ericsson, qui lui aussi est très intéressant, je suis optimiste.
Alors, je vais m'aventurer à décrire la tour imaginée par Shigeru Ban rapidement pour nos auditeurs. On a comme une structure en escalier et au terme de cet escalier, peut-être à 100 mètres de hauteur, je l'ignore, je dis ça approximativement, on a tout à coup une pointe qui se détache, un triangle qui s'élève vers le ciel. Est-ce que ce triangle qui a un angle droit à sa base a attiré ton attention, Jean-Christophe?
Ben oui, en fait, ça, c'est ce que je trouvais très intéressant, c'est que là, je pense qu'il y a un rappel réussi là, de l'œuvre de Ericsson et en général de l'architecture de l'époque où lui œuvrait, c'est-à-dire que cet engouement pour les terrasses et puis les choses qui en forme de pointe, c'est
Oui.
vraiment assez typique. On peut penser, par exemple, Frank Lloyd Wright a utilisé des formes semblables dans certains de ses dessins, pas nécessairement dans certaines de ses œuvres réalisées, mais dans certains de ses dessins. Ou bien, ça fait penser à l'architecture de Roger Dastou à Montréal, les pyramides du village olympique de 1976. Et ça rappelle justement l'immeuble de Ericsson qui est juste à côté, qui lui aussi est en terrasse, puis il reprend cette espèce de motif de triangle.
Est-ce que c'est la partie en bois de l'immeuble, le triangle, ou est-ce que
Oui,
Oui, OK.
à vue d'œil, on dirait, là.
D'accord.
Comme je dis, j'ai pas énormément d'infos, mais c'est l'impression que l'image donne. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que, comme je disais, cet immeuble-là est pas trop opprimant pour le niveau de la rue, justement. Quand on parlait de convivialité, c'est d'éviter d'avoir ces énormes masses surplombantes et puis de permettre au soleil de se rendre jusqu'à la rue. Et puis là aussi, j'ai l'impression que, bon, il faudrait regarder l'orientation et tout, mais le triangle s'éloigne de la rue, donc là aussi, ça vient un peu diminuer l'impact, rendre l'immeuble un peu moins imposant.
Alors, cet immeuble en bois et en béton sera construit, on le rappelle, dans le secteur du Waterfront à Vancouver. Jean-Christophe, comment fait-on pour consulter l'article justement qui fait le portrait de ce projet?
Écoutez, je pense que si vous tapez Shigeru Ban et Vancouver dans votre moteur de recherche, vous allez tomber dessus tout de suite. Moi, l'article qui m'avait mis la puce à l'oreille était sur le site Dezeen, Dezeen, qui est un site là, qui publie des nouvelles par rapport à l'architecture.
Et voilà, donc le nom de cet architecte s'appelle à peu près comme il se prononce, Shigeru Ban, Shigeru, espace Ban.
C'est un des très grands noms de l'architecture contemporaine mais ça fait des années qu'il pratique. C'est vraiment quelqu'un de très respecté qui s'était mérité le prix Pritzker en 2014, ce qui est considéré comme étant le prix le plus prestigieux là, dans le monde de l'architecture. Un peu le Nobel de l'architecture, si on veut.
D'accord, merci pour l'info. Alors Vancouver qui se distingue en matière d'architecture, qui fait les manchettes, je nous donne comme ambition ou projet de parler d'un immeuble en bois à Victoria. Je vais m'informer pour savoir s'il se construit des immeubles en bois justement dans ce courant là qui a cours actuellement à Vancouver. S'il s'en construit également ici dans la ville de Victoria, on pourra peut-être causer de ces constructions-là à ce moment-là. En attendant, Jean-Christophe, merci beaucoup pour cet éclairage sur ce nouvel immeuble en bois qui bat des records à Vancouver.
Ben, ça me fait grand plaisir, Alexis.
À très bientôt. Encore merci à Jean-Christophe Leblond pour cette chronique architecturale et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette nouvelle édition du débrief pour les 12 et 13 juin. On va se retrouver demain, même heure, même fréquence, en fin de journée ou encore en rediffusion matinale. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.
Ici Roseanne Harvey, vous écoutez CILS FM 107,9, la voix de votre communauté.
Vous aimeriez en connaître plus sur l'histoire personnelle des grands compositeurs classiques? L'influence de la modernisation des instruments dans la musique de 1600 à aujourd'hui? Ne manquez pas Histoire classique avec Louise Alpin, diffusée 3 fois par semaine sur les ondes de CISFM.
On se parle et on s'oublie. On the edge of ecstasy. Et puis on se donne à contre-sens pour être l'auteur de nos attentes. Le soir tracé jusqu'à l'aube, sans relâche à qui est la faute.
Toujours entre nous, y'a rien que ça, comme un sous-fond. On a beau faire, on a beau dire qu'un homme averti en vaut deux. On a beau faire, on a beau dire, ça fait du bien d'être amoureux. Je sais que ce prochain amour sera pour moi la prochaine défaite. Je sais déjà à l'entrée de la fête la feuille morte que sera le petit jour. Je sais, sans savoir ton prénom, que je serai ta prochaine capture. Je sais déjà que c'est par leur murmure que les étangs mettent les fleurs en prison. Mais on a beau faire, on a beau dire qu'un homme averti en vaut deux. On a beau faire, on a beau dire, ça fait du bien d'être amoureux. Je sais que ce prochain amour ne vivra pas jusqu'au prochain été. Je sais déjà que le temps des baisers pour deux chemins ne dure qu'un carrefour. Je sais que ce prochain amour sera pour moi la prochaine des guerres. Je sais déjà cette affreuse prière qu'il faut pleurer quand l'autre est le vainqueur. Mais on a beau faire, on a beau dire qu'un homme averti en vaut deux. On a beau faire, on a beau dire, ça fait du bien d'être amoureux. Je sais que ce prochain amour sera pour nous de vivre un nouveau règne dont nous croirons tous deux porter les chaînes, dont nous croirons que l'autre a le velours. Je sais que ma tendre faiblesse fera de nous des navires ennemis, mais mon cœur sait des navires ennemis partant ensemble pour pêcher la tendresse. Car on a beau faire, on a beau dire qu'un homme averti en vaut deux. On a beau dire, ça fait du bien d'être amoureux.
Salut Victoria, vous écoutez CLS FM 107.9, votre radio communautaire francophone.
Bien que l'émission Parole d'aînés soit créée, animée et montée par des aînés, les sujets qu'elle aborde s'adressent à tous. Animé par Marie-Hélène Bourret, ce magazine de 60 minutes est présenté le samedi matin entre 9 et 10 heures et est repris le lundi dès 17 heures et le jeudi à compter de 13 heures. Au plaisir de vous y divertir et de vous renseigner. Bienvenue à Parole d'aînés, une émission magazine pendant laquelle des aînés vous parleront de sujets chers aux aînés. Un moment pour se retrouver entre gens de la même génération, pour se rappeler, s'informer, se divertir. Une heure dans la semaine pour se parler entre amis.
Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire.
Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire.